Et maintenant, votre émission, La Voix du Chien à trois pattes, pour découvrir les jazz d'aujourd'hui. Aimez-vous le jazz?
Oh, bien sûr, oui.
Non, bien sûr que non.
Oui, j'aime certains jazz.
Des fois,
j'adore le jazz, je suis là pour ça.
Ouais, c'est pour ça que je suis là.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la voix du chien à trois pattes sur Radio Calade 100.9. Nous recevons aujourd'hui Lionel Martin, saxophoniste, musicien. Et je suis aussi avec Jean Bernard de l'association du chien à trois pattes qui nous fera une chronique au milieu de l'émission.
Bonjour.
Et Michel, bien sûr, notre grand chef à tous. Et Dédé à la technique, comme d'habitude.
Bonjour.
Voilà. Donc Lionel, très heureux de vous accueillir
de même
à Calade Radio et présentez-vous.
Bah, très content d'être ici avec vous et puis voilà, j'ai entendu le générique qui est magnifique et moi j'aime le jazz aussi, j'aime surtout la diversité, la surprise et l'inventivité et ce qui n'est pas prévu et la différence, voilà.
Tout ce que le chien à trois pattes aime aussi.
Donc les chemins de traverse.
Voilà.
C'est ce qu'on dit toujours.
Donc le premier morceau, vous pouvez nous le présenter ou vous le présenter après?
Peut-être après, parce que je ne sais
après.
Pas lequel.
D'accord.
Ça va
et bien alors, le premier morceau, Apollonia Palm Unit et Fred Escoffier. Donc c'est parti.
Thank you.
Nous venons d'écouter...
Palmunit.
Ah oui, c'est Palmunit et Fred Escoffier. Donc Fred Escoffier à la composition, au keyboard et à la voix. Lionel Martin au ténor sax. Philippe Pipon-Garcia à la batterie. Et Jean Joly à l'électrique basse.
Alors juste avant que Lionel se présente plus à fond, c'est vrai que c'est des musiciens magnifiques. On a Philippe Pipon-Garcia, on avait eu l'occasion de l'avoir au chien dans un quartet, le Quartet S, avec...
avec Jean-Paul Hervé.
Jean-Paul Hervé. Et puis un magnifique violoniste et une voix de...
Qui chantait aussi.
Contralto, ouais, extraordinaire. Ben, je pense que
oui,
je vais laisser la parole.
Garcia, c'est un batteur légendaire. Enfin, nous, on le voyait dans les années 90, toujours dans des projets plus fous les uns que les autres. C'est quelqu'un qui est capable de dire « Je joue pas de guitare, mais demain, je fais un concert à la guitare. Ben, » voilà. Et ça va être de la folie. Voilà. C'est quelqu'un qui avait un groupe qui s'appelait Cosmic Connection, dans lequel il y avait d'ailleurs Frédéric Escoffier. Et ça a été vraiment un groupe pionnier dans l'électro, enfin, voilà, dans le jazz. Et puis après, aussi bien, Pipon, il a été appelé par Truffaz, par... enfin tous les gens,
tous les grands,
tous ceux qui ont fait un peu de l'électro jazz, ils l'ont appelé pour travailler. Donc c'est quelqu'un qui a enregistré chez Blue Note, qui a, voilà.
un grand monsieur,
voilà, plein d'humilité, qui est génial. Et Fred Escoffier, c'est un vieux musicien, un vieux copain surtout, enfin vieux copain plus que pas si vieux que ça, mais avec qui on a presque commencé à faire des concerts ensemble là, sur Lyon dans les années 90 aussi, qui jouait d'ailleurs avec Pipon dans un groupe qui s'appelait Land dans les années 90. Et nous, avec Pipon, avec Fred, on s'est retrouvés aussi dans You Can Dance, surtout.
Voilà,
voilà, c'est le clavier du You Can Dance, historique.
Musique d'inspiration éthiopienne. Avec,
D'accord. Ouais. Voilà. Et il est parti du groupe et là, il est revenu dans ce groupe-là depuis peu. Et Jean Joly, qu'on connaît bien aussi, mais à la batterie, surtout.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure.
Qui joue de la basse, là.
Qui est à la basse, depuis ça fait quelques années là, qu'il joue de la basse. Enfin, voilà, il a un son incroyable, enfin, c'est un musicien hors pair.
Eh bien, on parle en fait d'invention, d'ouverture, dans les styles, dans les types d'instruments, mais peut-être d'autres ouvertures dont vous nous parlerez, Lionel.
Alors là, oui, c'est vrai que je vois sur la liste, pardon, je te devance un peu, Philippe, mais je vois que le prochain morceau, c'est Captain Planet, et c'est effectivement un album de pur dub. Enfin voilà, et c'est que Pipon, donc on parlait de son passé électro, mais c'est un pionnier des free parties aussi, c'est un amateur de dub, enfin vraiment très connaisseur. Moi, je connais pas, j'aime toutes les musiques en soi, mais je les connais pas toutes évidemment, et donc on me fait connaître, on m'emmène, et je suis toujours
ouvert et
curieux. Et quand il m'a mis dans les oreilles quelques morceaux sur lesquels il avait travaillé, j'ai dit mais c'est hallucinant ce truc là c'est tout enregistré à la maison avec son petit micro et sa petite batterie, et on dirait que ça sort de Jamaïque. Enfin, il y a une qualité de son, c'est un truc incroyable. J'ai dit moi ça, si tu veux, on fait un disque quand tu veux. Et donc c'était dit, c'était fait.
Eh bien, nous écoutons maintenant Captain Planet, Philippe Pipon-Garcia. Allons-y. We'll be right back. vous écoutez Radio Calade 100.9 et vous écoutez l'émission La Voix du Chien à trois pattes. Nous venons d'entendre Captain Planet avec Philippe Pipon Garcia. Et Lionel, quelques mots sur, cet album.
Alors cet album, c'est intéressant de l'écouter comme ça à la radio, parce que c'est un album qui est uniquement sorti en vinyle. Voilà, moi j'ai monté un label qui s'appelle Ouch Records, pour produire des vinyles, qui est un support que j'adore, et j'adore écouter de la musique de cette manière-là. Moi, j'ai pas de smartphone, donc je peux pas écouter de la musique. Voilà, j'ai un ordinateur, mais j'aime pas. C'est mon outil de travail, donc je fais des mails, je fais plein de choses, et j'aime pas écouter de la musique dessus. Donc ma seule façon d'écouter des disques, c'est le vinyle et les CD, bien sûr. Il se trouve que quand même le vinyle a une qualité de son et génère une écoute, le fait d'avoir à changer de face, etc., qui me plaît vraiment dans le rythme d'avoir deux faces de 20 minutes maximum. Moi, c'est bien pour ma concentration. Et au bout de 20 minutes, j'ai une frustration qui fait que j'ai envie de passer à la deuxième phase, etc. Enfin, donc, j'ai que des bons points sur le vinyle. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime les pochettes.
Et dans votre production, c'est uniquement en vinyle et pas de CD?
Alors maintenant, je fais un petit peu des CD parce qu'il y a certains auditeurs qui n'ont pas de vinyle, donc j'ai un CD en complément. D'accord. Mais pas sur tous les disques.
D'accord, ok.
D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir le site de Ouch Records. Non seulement les pochettes de disques sont magnifiques et on découvre effectivement une proposition de vinyle assez extraordinaire.
Bah, il y en a 18, on n'est pas loin des 18, je crois. Donc finalement.
Et vous avez commencé à produire il y a combien de temps?
Je crois, il y a 5-6 ans.
5-6 ans.
Ouais. Oui, avec un album de You Can Dance qui était épuisé, en fait. Il y avait eu un vinyle, mais un simple vinyle, et qui regroupait une partie d'un album que je trouvais très bon. Et je me suis dit, c'est dommage, ça vaut le coup de faire un double album pour qu'on puisse trouver ce disque-là, le rééditer. Et ça a été le point de départ. J'ai fait un disque, et puis après, on a enchaîné avec Mario Stanchev sur le duo qui était aussi venu au
Chien à trois pattes. Voilà. Mémorable.
Et finalement, on se retrouve avec 18 disques aujourd'hui. Bravo. Et puis surtout l'idée du label d'aller sur l'ouverture. Donc là, on était sur un morceau de pur dub, vraiment, qui est chroniqué dans des journaux de reggae, etc. C'est vraiment un pur dub de Pipon. Et puis des artistes internationaux, on va dire aussi, que j'adore et qui sont un peu en marge, des gens un peu de l'underground, quoi.
Pas dans les grands circuits.
Voilà.
Ouais. Ah, d'accord.
J'ai pas mal d'Américains finalement dans le label aussi.
D'accord. Ouais.
Dont un certain Eugène Chadbourne, qu'on appelle le Doc, voilà, et qui fait toujours des concerts mythiques.
Le canard.
Voilà. Alors c'est pas le Doc qui est canard, mais
oui, d'accord.
Docteur Chadbourne, et qui, qui a une manière de soigner les gens avec sa musique et son banjo. Mmh. Et c'est une musique complètement. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Fred Frith, qui a travaillé avec les Violentes Femmes. Enfin, c'est quelqu'un aussi. Il n'y a pas plus ouvert que ce monsieur-là, et avec un talent de. Enfin, c'est un immense musicien qui tourne dans le monde entier et qui a des fans dans tous les coins. Et donc, il avait joué à Grand Guignol à Lyon, et un copain à moi l'avait enregistré. Il m'a dit : « J'ai les bandes d'un concert mythique de Eugène Chadbourne à Lyon. Mmh. Je te fais écouter. » Effectivement, il y a sujet à faire un sacré disque. Donc, j'ai contacté Eugène, qui m'a dit : « Mais oui, bien sûr. » Vas-y, fonce.
Magnifique.
Et c'est parti.
Mais nous écoutons le doc Eugène Chadbourne maintenant.
Anyone here named Johnson? This is the Johnson. Johnson boys were raised in the ashes. They don't know how to treat a maid. People run when they see them coming. Side of the Johnsons making folks afraid. But the side of a pretty girl making them afraid. Side of a pretty girl making them ashamed. Side of a pretty girl making them afraid. Side of a pretty girl making them afraid. Shame, 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 shame on the Johnson boys. Johnson boys came into Lyon laughing and firing off their guns. People run when they see them coming. They know them Johnson boys are no fun. Side of a pretty girl making them afraid. Side of a pretty girl making them afraid.
Side of a pretty girl making them afraid. Side of a pretty girl making them afraid. Shame, shame, shame on the Johnson board. Johnson boys went up to the mountains with some fair young maids. Took them gals up to the mountains, didn't come back till the very next day. But the sight of a pretty girl making them afraid. 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 Shame, shame, shame on the Johnson boys. Johnson boys went a-courtin', didn't have too long to stay. The reason was they've got no money, they have no way to pay their way. And the sight of a pretty girl making them afraid. 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 Shame, shame, shame on the Johnson boys. How to treat a maid. People run when they see them coming. Side of the Johnsons making folks afraid. And the side of a pretty girl making them afraid. 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 Shame, shame, shame on the Johnson boys.
D'écouter Eugène Chadbourne. Lionel, pouvez-nous parler d'Eugène Chadbourne, parce que je crois que vous l'avez produit. Mm-hmm. Et ouais. Puis parler de votre label aussi.
Oui, alors on est en train de... Alors Eugène, on l'a un petit peu... on en a parlé un petit peu avant. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que moi, c'est un musicien mythique. Et je réalise de dire... Il est sur le label, quoi. On l'a, c'est génial, quoi. Et puis, ça permet aussi de faire écouter... Alors, le jazz, c'est la musique de la diversité, de l'ouverture. Et finalement, on se retrouve des moments avec des musiciens qui sont sortis d'une certaine esthétique. C'est, moi, j'ai fait écouter donc, à des jazzman, notamment Eugène Chadbourne. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il joue vraiment ou il fait n'importe quoi? voilà. Donc, c'est intéressant de sortir aussi des du cadre. Voilà, et par rapport au label, on discutait là de la honte. Oui. Moi, finalement, j'ai un label aussi qui propose des choses que j'aime, donc je revendique et j'ai pas peur de dire j'aime ce truc-là. Ça vient d'une histoire aussi. C'est vrai, quand j'étais au collège, j'écoutais des choses que les autres n'écoutaient pas. Et j'aimais bien Sidney Bechet, j'aimais Albert Heller, j'aimais les Berrues. Alors les Berrues, ça allait un peu mieux parce que c'était dans un truc plus d'époque et un peu revendicatif. Donc on avait il y avait les gars qu'il fallait pour. Par contre, Sidney Bechet, Albert Heller, c'était plus compliqué, quoi.
Ouais. Albert Heller, c'était plus compliqué.
Et du coup, je trouve intéressant de se dire, toutes les musiques. Enfin, moi, j'aime toutes les musiques en soi. Et de me bagarrer pour dire on peut pas dire ça, c'est de la merde.
Mais il faut de la curiosité.
On peut se dire ça, j'y suis pas sensible, ouais. Ça j'aime pas. Je suis pas le seul à penser comme ça, heureusement. Hein. Enfin, je pense aux compagnies des musiques à Weir à l'époque qui avaient travaillé avec Yvette Horner Et quand ils avaient contacté Yvette Horner, elle a dit « Vous foutez de ma gueule ou quoi ?» Bah non. Et quand ils se sont rencontrés, elle a vu qu'ils connaissaient tous les morceaux, qu'ils jouaient ça super bien. Bah non, ils ne sont pas en train de se foutre de ma gueule, ils aiment vraiment. Et bah voilà, on peut aimer Pierre Perret ou Yvette Horner, et il y a pas de, et ça n'empêche pas d'aimer Eugène Chadbourne et d'aimer un jazz très avant-gardiste, une musique même rock très dure. Enfin, rien n'empêche rien, quoi.
Et comment s'appelle votre label ?
Alors le label s'appelle Ouch Records. Voilà, je suis un fan de bande dessinée aussi. Et voilà, bah comme dans les comics.
Alors ça s'écrit comment ?
Bah ouch, comme quand on se prend un coup de poing ou quand ouch, ça fait ouch.
Ouch. Ouch Records. Voilà. Voilà. Oui, nous allons maintenant avoir la chronique de Jean Bernard. Mais après cette chronique, Lionel, vous nous parlerez aussi de la diffusion de vos albums de ce label. Donc, Jean Bernard, à vous.
Eh bien, aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir si tous les grands noms du jazz ont suivi un parcours académique. Miles Davis, Ellington, Jarrett, Coltrane, Evans et bien d'autres encore. Eh bien, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. Dans leur parcours, par contre, il apparaît des points communs qui ont largement contribué au développement de leur art. D'abord, ils sont en possession de dons et de talents naturels, souvent exceptionnels. Des exemples. Duke Ellington compose très vite, sans même savoir écrire une ligne de notes. Dizzy Gillespie et Monk inventent le bebop de partir de rien, sortant des standards. Keith Jarrett est flûtiste, saxophoniste, pianiste et plus encore. Martial Solal, pianiste français avec sa magistrale capacité d'improviser. Et nous pourrions en citer bien d'autres. Autre point commun, beaucoup naissent dans des familles musiciennes ou très sensibles à la musique. Et leurs familles vont plutôt contribuer au développement de leurs dons, chez Bill Evans par exemple. Beaucoup vont prendre des cours, mais pas dans des écoles académiques pour la plupart. Beaucoup vont faire très jeunes des expériences dans des orchestres et vont ainsi se faire repérer et conforter par des artistes existants. Il s'ensuit souvent dans leur trajectoire des rencontres et des fréquentations très fructueuses. Je cite pour exemple Miles Davis, à 16 ans, il rencontre Lester Young et plus tard, il crée le jazz fusion en lien. J'en viens à conclure que devenir une référence en jazz, ce n'est pas forcément passer par un parcours académique, celui des grandes écoles de musique. Cela ne s'oppose pas non plus, bien sûr, et je peux illustrer ceci par Ibrahim Mahalouf, contre-trompettiste de renom sorti du Conservatoire national de musique de Paris. Il apparaît que c'est surtout développer des expériences personnelles qui amènent à développer des talents existants en soi, dont la reconnaissance par la fréquentation d'autres musiciens et souvent d'autres milieux vont favoriser la croissance et en libérer l'expression.
Merci Jean-Bernard pour cette chronique.
D'ailleurs, tout à l'heure, Lionel, vous parliez de l'apprentissage, avoir un prof, un grand nom. Ça consiste pas forcément à suivre des cours, mais peut-être simplement de jouer avec lui.
Alors, j'ai eu un prof de sax, moi, magnifique, hein, qui s'appelle Michel Rodriguez. Voilà, donc je le remercie encore de m'avoir donné le goût de la musique. Voilà, et le goût de la bagarre, en fait, aussi. Puisqu'en fait, moi, il m'avait dit, en gros, un mec comme toi, tu vois, s'il veut faire de la musique, bon, il faudrait mieux qu'il pense à faire autre chose. Par contre, tu vois, lui, il est doué. Donc, si jamais il veut faire un parcours, je le pousserai à rentrer au conservatoire, etc. Alors, ceci dit, il m'a vraiment encouragé à jouer. Et il avait bien senti que je ne pourrais pas rentrer dans un conservatoire. Parce que trop atypique.
Trop de conventions.
Et c'est pas tellement trop de conventions, c'est qu'en fait, j'étais pas taillé pour. Hein. Ouais. Enfin, avec du recul, je me dis, moi, j'aurais bien aimé faire le conservatoire. C'était pas un rêve, mais j'aurais aimé pouvoir comprendre les choses comme un élève qui comprend pas les maths, en fait, et qui, avec un autre prof, va les comprendre. Voilà, j'étais pas dans le moule. Donc, il fallait trouver sa voie. Et effectivement, le jazz est génial pour ça, parce qu'il permet de se construire de manière de prendre un autre chemin pour arriver à faire de la musique. Et à ce moment-là, quand on n'est pas dans le cadre, mais il y a quelque chose qui est intéressant, ce sont les rencontres avec les musiciens, finalement. Et quand on joue... quand on joue avec Mario Stanchev, avec Sangoma Everett, mais avec Damien Cluzel, enfin tous les musiciens qu'on croise, c'est à chaque fois on apprend. si on reste dans une logique d'ouverture. Et voilà, moi je suis content d'être invité à Radio-Canada aujourd'hui, parce que je vous rencontre et on apprend des choses. Philippe, j'apprends que tu as des photos de Mingus qui datent de
77.
De 77. De voilà, Dizzy on apprend aussi. La dernière fois avec Pierre, bon, on a parlé de son parcours en Afrique. Voilà, ça c'est génial parce que chaque rencontre est une ouverture et est une occasion de progresser, enfin de progresser, d'apprendre un petit peu et de se dire bah, le monde est tellement grand, il y a tellement de choses à faire. Voilà, et donc on est sorti un petit peu du sujet tout en y restant, puisque finalement ouais, c'est la même
c'est
question.
C'est Jean-Bernard qui nous y a mis. Hein,
et finalement,
je dirais aussi, ça me fait penser à cela aussi, les courants créateurs comme l'électro-jazz par exemple, continuent cette mouvance qui est inscrite vraiment au cœur du jazz. Cette mouvance créatrice qui est inscrite au cœur du jazz.
Le cœur du jazz, après, on ne va pas débattre sur le mot jazz, puisque moi, je ne suis pas spécialiste. Enfin, j'aime ça et ce que j'ai envie. C'est vraiment une musique qui permet la rencontre et l'évolution. Voilà. Et s'il n'y a plus ça, il n'y a plus de jazz, effectivement.
C'est ça.
Peut-être. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant, parce que là, je vois sur le papier, dans la conduite, qu'on va enchaîner sur Eric Mingus. Donc, le nom, il n'y a pas besoin de... Voilà, Eric Mingus, je n'ai pas envie de parler de son père, puisque parlons de lui... et qui est le fruit, l'enfant d'un musicien immense, enfin plus qu'immense, et lui qui joue une musique complètement atypique, et qui est hors norme, ce qui fait qu'il est tellement hors norme qu'il fait ses disques et qu'il les sort en cassette sur Bandcamp, et moi j'entends sa musique, il a une voix incroyable, et donc je le contacte en disant, moi j'ai un label, un petit label, ça me plairait de produire un disque de votre musique. Et là, il me répond, mais bien sûr, enfin, il va écouter, il voit que je suis musicien aussi, et il est intéressé. Et on s'est rencontrés, il est venu sur le festival, sur le Rhino Jazz à Saint-Étienne, et c'est quelqu'un qui trimballe une histoire incroyable, et en même temps, qui cherche sa voix. Donc, en cherchant sa voix, il peut pas, c'est pas un professeur qui va lui dire. Donc, il a besoin d'expérience, il a besoin de vie, et ce qui l'intéresse, c'est de c'est un troubadour, quoi, de jouer, et tant pis si c'est pas une... S'il n'est pas dans une grande maison de disques et qu'il n'est pas... voilà, il est sur la route et il joue de la musique.
Il n'est pas dans les cadres, mais voilà. Il avance.
Et ça, c'est intéressant.
Et nous écoutons maintenant Eric Mingus sur le label Ouch Records.
Not born into anything in particular. Could be a part of it, all of it, or not at all. Standing off in the distance, trying not to catch an eye, but eager to connect with the heart. Mixes of anger, fear, and love arose. Swole up behind the eyes. Eyes tired from the strain of the day-to-day. Eyes sharp to catch what others don't see coming. I'm not losing my mind, but that's how you treat me. Long past the crossroads, long past the deals to be made, the devil's weaved his way into the fabric. Woven into the clothing worn by us all. Distorting the visions of what is reality. I'm not losing my mind, but that's how you treat me. Disguising, twisting words so they are believed to be the truth. Deny, denial, blind to all the atrocities, building on the fear. I'm not losing my mind, but that's how you treat me. And he turns the page and it's empty. Thoughts are gone. The devil's in us erased his ideas. And sometimes I start to wonder, because God makes it all about him. And the devil makes it all about you. I am not losing my mind, but that's how you treat me. Oh yes, give it on up to him. Give it on up to him. Here he comes, y'all. Here he comes, y'all. Give it all up to him. Give up your freedoms. Give up your mind. Give up all your motherfucking time.
Nous venons d'écouter Eric Mingus, je pense que un groove incroyable et une voix incroyable.
Et Dédé était aux anges.
Alors, Dédé qui dit qu'il devrait faire du blues. Mais en fait, son disque, c'est un disque de blues.
Ouais, ouais, mais voilà, mais là, on ressent. Enfin, on a beaucoup discuté, on n'a peut-être pas beaucoup écouté, là, sur le coup.
Ah, puis après, ce qui surprend les gens, parce que pourquoi il fait du blues, bah, écoutez les albums de Mingus, hein, père. Voilà, c'est quand même. Alors, certes, on avance dans la construction, dans l'écriture. Qui rejoint une écriture contemporaine, mais c'est du blues avant tout. Il y a toujours et le chant est là, enfin aussi.
Bien sûr.
Le cousin chéri du jazz.
Est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu de la diffusion de votre label ?
Alors le label, dans un premier temps, quand le label était, on va dire, j'avais que quelques références, lors des tournées, je laissais les disques dans les magasins, et puis très vite, en fait, c'est devenu ingérable. Et donc je ne savais plus où j'en avais laissé, etc. À part à Underground Store, là, à Villefranche, chez Nick, voilà, parce qu'on a quelqu'un qui est, voilà, qui vient faire ses émissions ici, en plus, donc c'est le moment de le saluer.
Tout à fait.
Mais qui est, voilà, avec qui on a. Il y a des magasins, évidemment, Original Watt à Lyon, Sofa Records, avec qui on est proche. Et moi, je suis quand même j'achète beaucoup de disques aussi, donc je passe dans les magasins, donc je connais gens. Mais quand on se retrouve avec un dépôt à Angoulême, un dépôt à Angers, un dépôt, on ne sait plus où on en est. Donc, j'ai eu la chance de trouver un distributeur qui s'appelle Inouï Distribution, qui est à Saint-Étienne. Et voilà, ce sont des gens qui soutiennent la musique, qui sont artisans aussi. C'est une petite boîte au départ. Et qui ont accepté de me prendre, de distribuer mes disques sans regard artistique. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit. Parce qu'en fait, moi, je ne rentre pas dans les cases avec mon label aussi. Ce qui fait qu'il y a certains gros labels de jazz qui pourraient me dire: ah ouais, mais ça m'intéresse. D'autres de blues, ah oui, mais Mingus, ça m'intéresse. Par contre, qui vont me demander, il faudrait que j'aie 10 labels, en fait.
Vous avez carte blanche.
Voilà, carte blanche. Alors certes, j'ai un distributeur qui est tout à fait. C'est pas un gros distributeur, mais par contre, il me prend tout. Et il distribue tout. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant qu'il n'y ait pas de regard et que je puisse être libre dans mes choix artistiques.
Dans les choix, voilà.
Et ça, pour moi, c'est essentiel. Si je me retrouve ficelé dans un truc, et puis pour dire. Mon objectif, c'est pas de faire du chiffre, et tant pis. Évidemment, c'est de faire circuler les disques et que la musique soit écoutée, mais c'est pas un projet de business, quoi.
Très bien.
Je crois que on va arriver à une proposition que vous avez faite, Lionel, de solo. C'est un exercice qui est étonnant. On se pose souvent la question au chien à trois pattes, faire venir des instruments, des concerts en solo. C'est sûrement pas très évident à produire un concert, mais là vous allez peut-être nous en donner un exemple.
Je peux dire, alors en fait, depuis mai, en fait, je me suis aperçu que j'ai fait 85 concerts là, donc en solo. Donc solo, des moments avec un danseur aussi, mais on garde, enfin au niveau de l'instrument. Voilà, demain, tiens, pour l'occasion, si je peux dire, on joue au musée des Beaux-Arts avec Mehdi Krüger. Voilà, sur les vanités. Voilà, c'est la thématique d'une nouvelle exposition. Oui, ça va être assez beau.
Ah, d'accord.
Et donc le solo, c'est quelque chose de magnifique. Alors moi, j'utilise des pédales, donc en fait, je suis pas seul avec mon saxo, comme c'était le cas il y a 20 ans. Donc en fait je fais un vrai orchestre avec mon instrument, et notamment sur ce dernier disque je suis allé collecter des sons dans les usines, dans les fermes, et pour jouer avec les sons du monde. Donc quand je joue en solo aujourd'hui, c'est pareil, je repars sur une base. Bon, ben, on est dans une usine, on entend les bruits de métallurgie et de fer à souder, et dessus j'écris ma musique, et voilà. Et donc on n'est pas du tout, il n'y a pas de sentiment de solitude, et c'est c'est très rempli. Même pour un public, il n'y a pas de différence entre un solo ou un duo ou un trio.
D'accord.
Puisqu'il y a vraiment un projet, il y a une forme, il y a une écriture et il y a une grosse masse sonore qui est proposée.
Et peut-être qu'il manque tout de même l'entrain des autres musiciens, non ? À côté, non ?
Non. Alors après, là, après vraiment des mois là, de tournée, on va dire, avec des parcours de 600 km dans la nuit à faire en partant d'un concert, en étant tout seul, ça manque un peu des moments. Je commençais à me dire, tiens, voilà, c'est quand même solitude. Pas mal quand on est plusieurs. Mais non, sur scène, non. D'accord. Non. Parce qu'après, et alors vraiment, ça a été des scènes, j'ai joué au Transborder là, au début d'année, vraiment sur une scène rock. Bon, évidemment, mon expérience à Saint-Étienne, là, de 24 jours dans un container, à jouer non-stop.
Parlez-nous un peu de cette expérience.
C'est assez unique,
de toute manière.
Alors, c'est vrai que là, on arrive à la phase du solo. En fait, vous m'aviez invité pour parler du solo. Puis moi, en fait, je trouve intéressant de parler du label et de toutes les autres musiques, puisque ce solo, ça rejoint cette idée d'ouverture aussi. Alors, on va dire, c'est de l'ouverture tout seul, donc c'est un peu gonflé. Mais il y a un moment, moi, j'avais besoin aussi de me sentir complètement libre et d'aller vraiment dans la musique que j'entendais dans ma tête et de pas être dans un processus d'avoir à l'écrire pour la faire jouer. Donc en fait d'être un peu maître à tout moment de ce que je peux donner. Alors qu'en groupe en fait on peut pas. On se connaît donc on voit comment on réagit, mais il y a quand même un canevas qui est pas si souple que ça sur scène. Voilà, donc le solo m'intéressait pour ça et le solo m'intéresse aussi dans les connexions possibles avec les autres arts. Voilà, que ce soit, j'ai parlé de la danse, mais c'est la danse, le slam et la peinture aussi, puisque là c'est une collaboration avec Robert Combas pour un deuxième disque, hein, c'est le deuxième disque solo que je fais, il y en a eu un avant. Et pour ce disque là on avait une performance immense de 24 jours de concert sur une exposition de Robert à Saint-Étienne, dans un container. Donc j'habitais dans un lieu et je jouais 24 heures sur 24 pendant 24 jours.
Voilà. on en ressort dans quel état ?
On en ressort encore plus motivé, ouais, on va dire. Ouais. On en ressort comme d'un voyage en bateau. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression de quitter quelque chose de très mouvant, parce qu'en fait, il y a toujours des choses, il faut s'adapter en permanence. Je faisais un répertoire différent tous les jours, donc tous les jours inventer, tous les jours se remettre en cause. Et en fait, c'est tellement stimulant qu'on en ressort
grandi
et puis surtout pas fatigué.
Et plein d'idées.
Alors moi, j'aime la voile aussi, j'aime la mer. Et en fait, quand on se retrouve dans un voyage, dans une randonnée, enfin dans quelque chose dans lequel on s'investit, une randonnée de 10 jours à pied, on ressort pas fatigué. On va avoir des ampoules le deuxième jour, mais on va avoir un peu mal aux jambes, mais à la fin on peut repartir en refaire une, au contraire, et là c'est un peu le même truc. C'est pas quelque chose d'usant, puisque c'était quelque chose à l'écoute et qui était en rapport avec ce que je vivais. Moi, je joue beaucoup dans la rue aussi depuis que j'ai 14 ans. Donc, je joue, quand j'ai pas de concert, je joue dans la rue, mais tous les jours. En fait, je me suis aperçu de me dire, mais en fait, là, jouer 24 jours, mais en fait, c'est ce que je fais. Puisque si, moi, je suis le matin de 7 à 8, je suis à l'hôtel de ville. Si j'ai pas de concert, je joue tous les jours. En fait, donc c'est. Voilà, et solo, c'est un peu ça. C'est reprendre ce truc de la rue. De jouer avec les éléments, avec l'environnement et de mettre ça en musique.
Eh bien.
Et donc le morceau qui suit, c'est avec les métiers à tisser. Voilà, on revient à cette histoire croix-roussienne. Ah bah oui. Voilà, voilà, et le morceau s'appelle A Change is Coming, puisque c'est relié aussi au chant. Voilà, c'est les métiers à tisser. Donc il y a le côté révolte aussi, mais je ne voulais pas faire un chant de révolte. Donc il y a un côté doux, mais la révolte est là quand même, liée à tout ça.
A Change is Coming. vous écoutez Radio Calade sur 100.9, la voix du chien à trois pattes. Nous venons d'entendre A Change is Coming.
Alors avec une nouvelle batterie, enfin les canuts finalement, et dans tout le morceau, on les entend plus à la fin, mais dans tout le morceau, on a l'impression que c'est une batterie qui joue.
Voilà, la rythmique, oui, c'est vraiment un métier à tisser.
C'est les métiers.
Ouais, les navettes se balader sur la rail.
J'ai juste une question là. Nous qui avons énormément d'instruments de musique, ça en ferait presque un supplémentaire. On était à 96 instruments.
Le métier à tisser, 97.
97 instruments, ça nous fait.
Mais on sent bien, vous avez bien retraduit la présence de l'histoire, de l'histoire à travers le saxophone aussi, et c'est cette musique de navette qui est là, et c'est vraiment impressionnant.
Merci.
J'ai trouvé impressionnant.
Et alors, ça va dans le sens, le disque, ce dernier disque s'appelle Énergie Multipliée. C'est le titre que Robert Combas a donné à la peinture qui fait la pochette de l'album. Et c'est Énergie Multipliée, en temps de Covid, essayer de chanter, résister comme un guerrier. Voilà, c'est un peu c'est l'image de ce qu'il a dessiné avec un peintre qui porte un saxophone sur ses épaules.
Je renouvelle le conseil, allez voir sur Ouch Record, sur le site, les illustrations des pochettes sont absolument magnifiques.
Ouais. Robert Combas, il y avait une exposition magnifique au musée d'art contemporain il y a 3-4 ans,
tout à fait,
qui était extraordinaire, tout le musée d'art contemporain.
C'est un peu la suite. C'était la suite de ça, parce que dans cette exposition au MAC, il habitait il avait son atelier, etc. C'était cette idée-là de revenir, de rebondir à Saint-Étienne avec quelque chose de similaire.
C'était une magnifique exposition. Entre parenthèses. Mais non, pas entre parenthèses, puisque
Saint-Étienne était incroyable. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu à Saint-Étienne, il y a des chances pour qu'elle soit redonnée à Paris l'année prochaine. Ce grand barouf, en fait, cette exposition.
Cette performance, exposition performance.
Il y a des chances.
D'accord. Ouais.
C'est dans les tuyaux.
Une avant-première. Là,
le chien va venir possible. À Paris. Nous allons écouter maintenant.
Je vais peut-être. Alors, je voulais parler à Lionel, puisqu'on s'y est rencontrés. Quelques membres du Chien sont allés à Clermont-Ferrand le week-end dernier, où se passait une manifestation assez étonnante, et surtout par le succès. Le Forum Jazz, ou le Jazz Forum, je ne sais plus comment on dit, organisé par Jazz Rhône-Alpes Auvergne, Jazzra. Qui effectivement met un S à jazz, on est tout à fait dans le sujet, et qui a rassemblé, je crois, plus de 3000 personnes, je ne sais combien de concerts,
oui, c'est un travail assez
des professionnels,
phénoménal.
Des écoliers, des étudiants, et puis un public, à Clermont-Ferrand, qui était vraiment la capitale du jazz, et c'est une très très belle expérience de rencontre, d'écoute, et de rencontre, tout à fait, tout simplement.
Tout à fait. Voilà. On peut saluer Pascal Buensoz, qui est un peu le fondateur, un peu qui porte un peu ce projet.
Oui, tout à fait.
Un travail remarquable.
Et qui se passe tous les deux ans. Et on sera à l'affût de la prochaine édition pour en parler plus et inviter tout le monde à s'y rendre.
Oui, je crois que c'est important parce que ça met une visibilité sur cette musique. Oui. Vraiment, c'est vraiment un gros travail.
Non, tout à fait.
Michel, peut-être parler du prochain concert
aussi.
Bien sûr,
bien sûr. Ben, je me disais en écoutant tout à l'heure le solo de Lionel avec ses bruits de navette et de métier à tisser, que finalement, avec notre prochain concert, le 18 décembre, on va un petit peu dans cette direction, alors non pas en solo mais avec un quintet, autour des bruits et autour de l'ambiance du métro de Lyon, la ligne B. Le groupe s'appelle Ligne B et qui viendra donc au Pêle-Mêle Café à Montmerle le samedi 18 à 21h, j'engage tous les auditeurs à venir s'y rendre. On a annoncé que le métro, la ligne B du métro arrivait à Montmerle. Alors ma foi, vous verrez, hein, c'est une manière de voir et de se plonger dans des bruits urbains, dans des bruits de tous les jours, sur lesquels donc les cinq musiciens ont fabriqué un projet qui est...
Alors c'est Jean-Paul Hervé qui a écrit, je crois.
Voilà, Jean-Paul Hervé.
Je les ai vus en concert à Saint-Fond, sur le festival Saint-Fond de jazz, et c'est bluffant. C'est vraiment une très belle écriture. Jean-Paul Hervé est quelqu'un qui sait très bien écrire la musique et arranger.
Oui,
et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu dans un projet aussi personnel. Ça vaut vraiment le coup de...
Ouais. Donc Jean-Paul Hervé à la guitare.
Grand guitariste.
Fred Roudet à la trompette, Raphaël Poli à la basse, Hervé Imbert à la batterie, et Loïc Bachevillet sur notre flyer, on a fait une petite faute d'impression. Bachevillier, donc au trombone, qui était un tromboniste que l'on connaît, qui était déjà venu au chien. Donc je rappelle le samedi 18 à 21h à Montmerle, au Pêle-Mêle Café, ce lieu si accueillant. Je propose d'en écouter un petit morceau.
Dis-moi, Michel, je crois qu'on les connaît presque tous, les musiciens, là.
Hein. Pas mal, oui.
Ah, il me semble, hein. Ouais, sacrée équipe, là.
Eh bien, on va écouter un extrait donc, de Ligne B, le groupe, le quintet, qui donc, a un projet autour de la ligne B du métro de Lyon et les bruits qui y sont attachés.
Nous venons d'écouter Heure de pointe de Ligne B.
Bravo. Ligne B que vous pourrez venir voir au Chien à trois pattes le 18 décembre à 21h à Montmerle, bien sûr, au Pêle-Mêle.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Dédé à la technique. Merci Jean-Bernard pour sa chronique. Merci Michel, le grand chef.
Et n'oubliez pas d'aller voir le site Ouch Record.
Ouch Record de Lionel Martin.
De notre invité.
Magnifique musicien.
Merci.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir
merci
à tous et à toutes. Au revoir.